France Info.
Bonjour à tous, bienvenue dans Les Informés, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité sur France Info. Tous les matins, jusqu'à 9h30, nous revenons sur les deux événements qui font l'actualité, sur France Info Radio et France Info TV. Bonjour Renaud Delé.
Bonjour Agathe.
Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Alix Bouillaguet, éditorialiste politique à France Info TV. L'interview politique aussi, tous les matins à 7h45. Bonjour Alix.
Bonjour Agathe. Bonjour Renaud également.
Bonjour Alix aussi.
Bonjour, trop de bonjour.
Bonjour. Bienvenue.
Étienne Girard aussi, directeur adjoint de la rédaction de l'Express. Bonjour à vous, Étienne.
Bonjour Agathe, bonjour Renaud, bonjour Alix, bonjour tout le monde.
Bonjour à tous.
Trop de politesse. Et on commence avec notre premier débat. L'après Bayrou, le RN peut-il croire en ses chances, Renaud ?
Tic-tac, tic-tac, hein, le compte à rebours est enclenché. Le vote de confiance qui semble perdu d'avance, c'est donc lundi, dans 6 jours à l'Assemblée nationale. Les socialistes ont décidé ne pas voter la confiance à François Bayrou. Une décision irrévocable, dit le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Et puis le Rassemblement National, lui aussi, a décidé de renverser le Premier ministre. Le Rassemblement National qui est reçu d'ailleurs ce matin même, hein, les deux têtes, si j'ose dire, du RN, Marine Le Pen et Jordan Bardella, reçus par François Bayrou à Matignon, mais pour confirmer qu'ils ne voteront pas la confiance et qu'ils souhaitent faire tomber le gouvernement. Et puis le parti extrême droite va au-delà de la chute de François Bayrou. C'est Emmanuel Macron que vise le RN et c'est aussi une dissolution qu'espère Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. C'était ce week-end à la foire de Châlons-en-Champagne.
Le fait de ne pas vouloir dissoudre l'Assemblée nationale au moment où on se parle ne veut pas dire qu'il n'y soit pas contraint à un moment donné, tant les blocages pourraient subsister au sein du Parlement. Donc moi, je suis venu dire aujourd'hui à nos compatriotes que la stabilité des institutions, la stabilité du pays est possible. Mais qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir sont des facteurs d'instabilité, tant les politiques qu'ils mènent et les choix qu'ils ont faits sont contestés par les Français.
L'instabilité, c'est Emmanuel Macron, donc selon Jordan Bardella. Le RN qui réclame une dissolution, de nouvelles élections législatives pour essayer de mettre en scène le fait que cette fois-ci, le RN serait prêt. Il a d'ailleurs réuni hier son bureau de campagne des élections législatives. Alors, pourquoi le parti d'extrême droite a-t-il changé de stratégie ? Pourquoi, après avoir accordé une forme d'indulgence à François Bayrou pendant un certain temps, comme il l'avait fait d'ailleurs au début du gouvernement Barnier, pourquoi le RN est-il décidé à faire chuter François Bayrou et même à aller au-delà ? Pourquoi réclame-t-il de nouvelles élections ?
Pourquoi le RN veut-il faire chuter le gouvernement aujourd'hui ?
C'est vrai qu'on peut se poser la question, parce que ça avait commencé un peu comme une lune de miel hein, entre François Bayrou et Marine Le Pen. François Bayrou, et c'est vrai qu'il avait des liens plutôt solides avec le Rassemblement National, plutôt appréciés même. Il était le défenseur de la proportionnelle, qui est un combat du RN. Il était aussi le défenseur, le promoteur même de la Banque de la Démocratie. Vous savez, cette banque qui permettrait de financer n'importe quel parti pour une campagne européenne. On se souvient des mots aussi de François Bayrou, lors de l'inéligibilité de Marine Le Pen, qui dit son trouble. Donc beaucoup.
Ce qui avait beaucoup choqué d'ailleurs au sein du socle commun.
Ce qui avait beaucoup choqué, et effectivement, donc ça part bien. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la lune de miel est terminée ? À mon sens, pour deux raisons. D'abord, parce que Marine Le Pen a vécu comme une forme de mépris le fait que cette lettre écrite le 25 juillet, pendant l'été, où elle donne ses propositions sur la dette, soit totalement ignorée, voire balayée par François Bayrou, qui ne prendra même pas la peine de lui répondre. On se souvient qu'elle avait pas supporté le même type de comportement de Michel Barnier, en rappelant qu'on ne devait pas mépriser les 11 millions d'électeurs du Rassemblement National. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'il y avait quand même sa base électorale qui poussait très fort pour renverser le gouvernement Bayrou. C'est vrai qu'elle avait cette stratégie de la cravate jusqu'à présent, la respectabilité, ne surtout pas se mettre dans les pas de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont dû ajuster la stratégie, à la fois répondre à cette base électorale, dire « Ok, nous aussi maintenant, on veut renverser François Bayrou, mais attention, on a un autre électorat qu'on vise, les seniors, les patrons, eux, ils veulent de la stabilité. Donc, d'où le slogan de Jordan Bardella qui dit pas bloquer, mais voter. Voter pour redonner une forme de blanc-seing peut-être au Rassemblement National si jamais il arrivait en tête et dire bah voilà, nous sommes la nouvelle stabilité.
Pour habiller cela d'un habit de stabilité et de respectabilité. Quid du calendrier judiciaire de Marine Le Pen, Étienne Girard, parce que on ne sait pas si elle pourra se réélire, se faire réélire à court terme, se présenter.
On pense même, a priori, sauf grosse surprise juridique, que Marine Le Pen ne peut pas se représenter à l'Assemblée nationale. Donc, ce que vient de dire Jordan Bardella, c'est intéressant, parce que ça raconte qu'au sein du RN, le sort électoral de Marine Le Pen a été scellé, ou, pour amoindrir, qu'au moins un gros risque sera pris, avec la grande possibilité pour que Marine Le Pen ne soit plus députée s'il y a des solutions, et donc ne soit plus présidente du groupe parlementaire du Rassemblement National. On voit bien que du côté de Jordan Bardella, ça c'est les enjeux politiques au sein des partis, lui, ça va pas le traumatiser, parce que lui sera candidat au poste de Premier ministre, il sera en première ligne s'il y a une campagne législative. Donc lui, de son côté, pour lui, la dissolution n'est pas un problème, mais on peut pas imaginer qu'il ait dit ça sans l'aval de Marine Le Pen. Ça veut dire que on a considéré au RN que c'était pas si grave que ça, et c'est vrai que c'est pas si grave que ça. Ça fera pas perdre à Marine Le Pen son assise politique dans le pays. À la place d'être présidente du groupe parlementaire, elle deviendra probablement présidente du parti, ou au moins elle sera payée par le parti, ce qui lui donnera une subsistance financière. Voilà. Donc en réalité, au sein du... ça apparaît quelque chose d'extrêmement fort. En réalité, c'est pas si grave que ça pour le Rassemblement national de perdre le siège de Marine Le Pen, qui continuera d'exister.
Ça a l'air simple comme ça sur le papier, mais on se rappelle les déconvenues en cascade du Rassemblement national aux dernières législatives, qui nous dit que cette fois, ils sont prêts et qu'on ne va pas découvrir dans les placards des candidats racistes, des candidats homophobes, des candidats antisémites. Renaud Dédé.
Oui, il y a un léger risque, effectivement, puisqu'on se souvient de ce fameux plan Matignon qui était tout ficelé l'année dernière lors des élections législatives de 2024. Le RN tambourinait que tout était prêt et qu'il ne manquait pas un bouton sur les costumes de ses candidats. Puis quand on a essayé d'épousseter un peu les costumes, on a découvert effectivement des dizaines de brebis galeuses, l'expression n'est pas de moi, elle est de Jordan Bardella, qui étaient des candidats racistes, antisémites, homophobes. Le RN justement a mis en scène le fait que cette fois-ci, d'ailleurs un logiciel éplucherait les réseaux sociaux, ce qu'ont posté un certain nombre de candidats depuis des années, et puis donc la réunion du bureau de campagne hier des élections législatives du RN. En même temps, c'est un problème que le parti d'extrême droite connaît depuis sa fondation, donc il y a très peu de chances que les candidats aujourd'hui soient tous propres comme des sous-neufs, si j'ose dire, et que le RN ait réussi cette professionnalisation-là. Mais il n'empêche que je pense qu'aujourd'hui, le RN a intérêt, et c'est pour ça qu'il veut bousculer les échéances électorales, pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que l'incertitude judiciaire qui pèse sur le sort de Marine Le Pen, ça incite plutôt le parti, finalement, à vouloir accélérer. Plutôt que de rester pendant 2 ans dans l'incertitude de savoir si en appel elle sera de nouveau condamnée, si elle ferait ou pas cassation, si elle irait ou pas en cassation, si le Conseil constitutionnel intervient d'une façon ou d'une autre. Après tout, autant jouer au chamboule tout et tout faire sauter aujourd'hui à travers une dissolution. D'autre part, on le voit dans les sondages, les Français souhaiteraient une dissolution. Donc évidemment, le RN, comme souvent, on voit souvent le RN osciller de façon tactique au gré des évolutions de l'opinion. Donc il cherche à coller évidemment à l'opinion. Et puis l'impopularité aujourd'hui du président de la République et sa fragilisation incitent le RN à aller dans cette direction. Un tout dernier point aussi, il y a un calcul qui est que le Front républicain, qui avait si bien fonctionné au second tour de législative l'an dernier, en juillet 2024, risque là d'avoir le plus grand mal à refonctionner s'il y avait de nouvelles élections, au vu des dissensions, d'abord au sein de la gauche, et puis au-delà, entre la gauche, le bloc central et LR.
Alex Bouyaguin.
Oui, peut-être léger bémol par rapport à ce que vous dites. C'est vrai que sur le papier, le Rassemblement national a tout à une dissolution. Les instituts de sondage le placent le parti en tête. Donc, ils n'auront pas forcément la majorité absolue, mais en tout cas, ils auront une progression, une grosse progression de sièges de députés. Et donc, ça les placera de fait au centre du jeu politique. Le petit bémol, c'est de se dire, est-ce que Jordan Bardella, il a intérêt à 20 mois de la présidentielle à aller à Matignon parce que ça pourrait être ça, hein, si c'est vraiment la première force politique, si la gauche s'effondrait, peut-être que Emmanuel Macron serait coincé et devrait nommer le RN à Matignon, hein, c'est un peu le sens des institutions. Est-ce que le RN a intérêt finalement à perdre du crédit, à se coltiner ce fameux budget qui va être récurrent tous les ans avec les oppositions qu'on connaît, qui devra faire lui aussi peut-être un constat d'échec, qui restera peut-être que quelques mois. Ça peut ternir quand même l'image d'un parti qui dit « Attendez, nous, on n'a jamais exercé le pouvoir, donnez-le-nous, vous allez voir ce qu'on va voir. » Il y a quand même un petit risque politique et de montrer qu'à l'arrivée, ils ne sont pas meilleurs que les autres, pas plus efficaces, et qu'à l'arrivée, ça ne fonctionne pas.
C'est risqué parce que les masques pourrait tomber, mais Étienne Girard, réellement, quel est l'état des forces aujourd'hui? Est-ce que Marine Le Pen a vraiment une chance de remporter des élections si elles avaient lieu demain, en tout cas son parti?
À mon sens, non. À mon sens, non, parce que les limites du Rassemblement National qu'on a vues au second tour des élections législatives existent toujours. C'est quoi les limites? C'est effectivement le profil des candidats qui, au second tour, font hésiter les électeurs quand il y a un duel. Et on voit bien que les duels ont du mal à être gagnés par le Rassemblement National. Et surtout, c'est un certain nombre d'endroits, les métropoles en particulier, dans lesquelles le Rassemblement National est inexistant. Et gagner une élection législative, avoir 289 sièges en ayant moins de 20 sièges dans les métropoles, c'est quasiment mission impossible. Il y a 22 métropoles en France. Il y a 20 métropoles où le Rassemblement National n'est pas arrivé en tête. Ils sont seulement arrivés en tête à Nice et à Toulon. C'est trop peu quand on veut gouverner la France. Ça rend impossible aujourd'hui. C'est un vrai plafond de verre pour gouverner la France.
Un plafond de verre, on a des
lignes. Un tout petit bémol, pour reprendre une expression chère à Alix Bouyaguet, je vais plagier Alix Bouyaguet, un tout petit bémol à ce que vient de dire Étienne Girard, je partage l'essentiel de son analyse, mais le RN ne progresse et donc serait susceptible de l'emporter uniquement grâce aux faiblesses et aux divisions de ses adversaires à chaque fois. C'est-à-dire que ce sont alors soit les échecs de ses adversaires au pouvoir, et en l'occurrence, par exemple, depuis législative 2024, l'incapacité, on va dire, des forces qui ont constitué le Front républicain lors du deuxième tour d'élection législative à transformer ça en attitude de coopération responsable à l'Assemblée nationale. On le voit bien. On le voit entre les socialistes, le Bloc central et LR. On le voit même, y compris d'ailleurs, au sein du fameux Bloc central. Hein. On voit un certain nombre de tensions, ou même LR, qui est membre du gouvernement, sans vraiment soutenir à bout de bras, c'est moins qu'on puisse dire, François Bayrou, y compris depuis le début. Donc ça sert toujours le RN, et ça, ces divisions, ces petits calculs politiciens peuvent se reproduire lors des élections législatives, notamment avec des divisions spectaculaires ou une incapacité à mettre en place au second tour d'un Front républicain.
Je trouve qu'il ne faut pas ignorer ce phénomène-là.
La principale force du RN, c'est toujours la faiblesse de ses adversaires, parce que sinon, là je rejoins aussi ce que disait Alix Bouyaguet tout à l'heure, effectivement c'est beaucoup plus confortable d'être toujours dans l'opposition contre ceux qui sont au pouvoir, quels qu'ils soient, et qui s'y succèdent. Donc c'est uniquement lorsque cela échoue, soit à cause d'une mauvaise gestion, soit à cause de division ou de mauvaise stratégie électorale, que ça peut servir le RN. Donc je n'exclurais pas totalement l'hypothèse qu'en cas de dissolution, le RN puisse cette fois-ci l'emporter.
Dans un instant, cette question, la France est-elle au bord de la banqueroute? François Bayrou est-il trop alarmiste? Mais tout de suite, il est 9h18 et c'est le fil info de Maureen Suignard.
Et ce matin, la patronne de la CFDT, Marie-Lise Léon, dit redouter une crise de régime en cas de nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Le syndicat appelle à un dialogue avec le gouvernement pour permettre le vote d'un budget de justice sociale et fiscale. François Bayrou et son gouvernement risquent d'être renversés lundi prochain après un vote des députés. Le dictateur nord-coréen attendu en Chine. Aujourd'hui, il rejoint en ce moment les présidents russes et chinois. Les deux chefs d'État s'entretiennent déjà ce matin et affichent leur bonne entente dans un contexte de forte tension avec l'Occident. Et les États-Unis en particulier. Les trois dirigeants seront ensemble demain pour assister à un grand défilé militaire. Des glissements de terrain meurtriers touchent en ce moment la région soudanaise du Darfour. Plus d'un millier de personnes tuées selon un groupe armé contrôlant la zone. Ce groupe demande de l'aide aux Nations Unies et aux organisations humanitaires. 102 nouveaux monuments en péril viennent d'être retenus dans le cadre du loto du patrimoine. La liste complète est à retrouver sur franceinfo.fr. La Fondation du patrimoine récolte des fonds grâce à la vente de jeux à gratter. Cela permet ensuite de financer des travaux de restauration, 325 millions d'euros déjà récoltés lors des 7 premières éditions.
France Info. Les informés, Renaud Dely, Agathe Lambray.
Avec nos informés du jour, Alix Bouyaguet, éditorialiste politique à France Info TV, Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction de l'Express. On passe à notre deuxième débat, Renaud. Combien cette nouvelle crise va-t-elle coûter? Qui paiera la facture?
Oui, l'annonce de François Bayrou de solliciter un vote de confiance de l'Assemblée a déjà inquiété les marchés financiers depuis quelques jours. Elle affole aussi les milieux économiques, les milieux patronaux. Qu'en sera-t-il après le vote de lundi, si comme c'est probable le gouvernement est renversé? Quelles seront les conséquences économiques pour le pays? Qui paiera la facture? Vous le disiez, est-ce que la France pourrait faire défaut, se retrouver en situation de banqueroute? Bref, combien ça coûte la crise politique et la chute d'un nouveau gouvernement? La réponse d'abord donc de l'un des deux économistes qui débattait sur ce plateau tout à l'heure, il y a quelques minutes, la réponse d'abord de Philippe Dessertine, qui est le directeur de l'Institut de Haute Finance.
Il faut vraiment avoir l'idée que par rapport à l'année dernière, si on va sur une crise politique longue, ça va coûter beaucoup plus cher. C'est-à-dire qu'on doit être dans cette idée que vraiment c'est en milliards, voire même au-delà des 15-20 milliards, c'est énorme, c'est-à-dire par rapport aux économies qu'on doit faire.
Alors 15-20 milliards, c'est l'estimation de Philippe de Sertine. C'est pas tout à fait celle que fait celui qui était son interlocuteur tout à l'heure sur ce plateau, Mathieu Plane, le directeur adjoint du département analyse et prévision de l'EFCE, pour lequel on plongerait en quelque sorte quand même dans une situation inconnue.
Ça coûte combien?
Tout le monde attend le 9 septembre. C'est-à-dire, qu'est-ce que va faire Emmanuel Macron? Est-ce qu'il nomme un gouvernement technique ou un gouvernement de coalition de façon à trouver un budget? Est-ce qu'il y a une dissolution? Tout ça change radicalement les choses. Donc personne n'est capable aujourd'hui de dire clairement quels vont être les effets macroéconomiques, si ce n'est qu'effectivement on va peut-être passer encore un cran dans l'incertitude.
Ça coûte combien la chute d'un gouvernement, Étienne Girard? Est-ce qu'on peut estimer vers quoi on s'engouffre?
Figurez-vous qu'on l'avait chiffré à l'Express, on avait chiffré nous le coût de la dissolution et le coût de la nouvelle situation politique en fin d'année dernière, fin 2024, et pour nous c'est 9 milliards d'euros par an. Pourquoi? Ça c'est ce qu'on voit, ce qu'on perçoit du comportement des consommateurs, des Français, qui consomment moins parce qu'ils sont inquiets, ils épargnent. Et évidemment, ça, ce comportement psychologique, cette inquiétude, cette angoisse, ça a des conséquences financières, économiques sur le budget de la France. Moins de consommation, moins d'argent qui circule, plus d'argent qui reste dans les banques. Et donc voilà, il y a ce trou de 9 milliards par an. On a fait ça avec des experts, notamment des assureurs. Mais ça dépend pas finalement de la situation toute proche de la possibilité de la chute d'un gouvernement. C'est l'instabilité politique générale, ce contexte où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, où les gouvernements peuvent chuter d'un jour à l'autre, d'ici à 2027, il n'y a pas de... Qu'un gouvernement chute ou pas, ça n'aura pas d'impact très fort sur la situation. Ce qui pourrait être très fort, c'est un accord entre les partis pour un gouvernement plus durable. On n'en prend pas le chemin, évidemment, comme vous l'avez remarqué.
Philippe de Sertine, économiste qu'on vient d'entendre tout à l'heure, il était inquiet. Alix Bouygues, il disait, en fait, ça va être de pire en pire. Plus les gouvernements chutent, plus ça va coûter cher.
C'est sûr, et puis c'est vrai que ça ne rassure pas les marchés, ça ne rassure pas les patrons, donc ça veut dire effectivement qu'on fragilise une croissance, qu'on fragilise la consommation, qu'on fragilise l'activité, l'investissement. Le coût, effectivement, de la crise, de la crise politique actuelle, parce que c'est vrai que c'est compliqué, on voit les économistes ne sont pas d'accord, se projeter sur la suite, c'est effectivement 0,3% de croissance en moins cette année, et effectivement on retombe dans cette fourchette qui est 8 à 10 milliards d'euros de richesse en moins pour l'économie. En cas de chute d'un gouvernement, on aggrave son cas parce que les marchés deviennent méfiants, les taux d'emprunt montent et donc là, ça coûterait jusqu'à 1 milliard de plus par an en intérêts à payer par l'État. Je rappelle que les intérêts de la dette, c'est déjà 66 milliards. C'est le premier poste de dépense de l'État avant celui de l'éducation nationale qui doit être de mémoire autour de 64 milliards. Et puis enfin, cerise sur le gâteau, le coût de la dissolution, ça veut dire quoi? C'est deux nouvelles législatives et législatives, ça coûte autour de 200 millions d'euros. Donc oui, ça a un coût, une crise politique.
Et dans ce contexte, il y a le Parti Socialiste qui propose son contre-budget avec 22 milliards d'économies seulement, comparé aux 44 milliards que cherchait François Bayrou. C'est crédible ça en ce moment,
René? En fait, la logique avancée par le Parti Socialiste, c'est de dire que plus qu'un choc, qui pourrait d'ailleurs avoir des contre-effets, y compris sur la croissance, c'est-à-dire un choc dit d'austérité ou d'une rigueur excessive, en tout cas 44 milliards en une année, etc. Il faudrait lisser un peu plus l'effort sur plusieurs années, d'ailleurs revenir au fameux seuil de 3% de déficit, non pas en 2029, comme le souhaiterait François Bayrou, mais plutôt en 2032, ce qui justifie pour le Parti Socialiste de limiter cet effort de réduction du déficit à 21,5 ou 22 milliards d'euros plutôt que 44. C'est une logique qui peut s'entendre aussi, hein. De toute façon, les économistes, comme toujours, c'est normal, sont divisés. Et puis, il y a des évolutions conjoncturelles qui sont toujours incertaines. Parce que quand on regarde aujourd'hui les fondamentaux de l'économie française, ils ne sont pas si mauvais que ça. Je ne parle pas de la situation financière et de l'endettement et du niveau des déficits. Mais c'est vrai que le chômage est aujourd'hui à 7,6% de la population active. Alors qu'on avait plutôt ces deux dernières années, au regard du ralentissement de la conjoncture, envisagé une envolée beaucoup plus importante du chômage, ce qui ne s'est pas produite. La croissance au second semestre a été de 0,3%. C'est pas mirifique, mais c'est plutôt mieux que ce qui était attendu. En tout cas, la France n'est pas en récession, comme l'est l'Allemagne, par exemple. On connaît le modèle de l'économie française qui a pour habitude plutôt d'amortir les chocs, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire qu'on a un modèle social et un modèle économique qui fait qu'en règle générale, en période de crise, la France en entre plus tardivement, on va dire, en crise qu'un certain nombre de ses voisins, et en sort aussi parfois plus lentement. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, ce qui est indéniable, c'est que ce qui compte, c'est, me semble-t-il, la trajectoire. Et cette trajectoire, elle est très mauvaise sur le plan des finances publiques. Et là, une crise politique durable, c'est pas tant la chute de François Bayrou lundi prochain qui aura un coup. C'est si on est, ou plutôt si on reste, dans une crise politique durable pendant encore 2 ans, avec une succession de gouvernements qui colmatent de ci, de là, mais qui n'engagent pas les réformes structurelles durables de fond pour contribuer à réduire sur plusieurs années les déficits publics. Et là, on est très clairement engagé dans cette spirale extrêmement inquiétante.
Et c'est clair que les détracteurs du budget Bayrou disent qu'il n'y a pas de réforme structurelle dans ce budget-là. Après, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la stratégie. L'Union européenne nous demande de faire 110 milliards d'euros d'économies lissées sur plusieurs années. Certains disent qu'il faut taper fort et tout de suite. Hein, c'était Barnier qui était à 50 milliards de mémoire. C'est la technique aussi de François Bayrou. Les socialistes disent, non, mais attendez, nous, on y va plus doucement, on est à 22 milliards, on peut lisser, on a le temps, faut pas non plus freiner trop vite, rentrer dans une forme d'austérité qui bloquerait tout, qui ferait peur. Après, c'est vrai que c'est une réflexion qu'on peut entendre.
Si je puis me permettre un tout petit mot quand même sur le MEDEF, puisqu'on entend dans ce contexte où tout le monde s'affole, s'inquiète, les milieux patronaux et le MEDEF s'affoler de l'instabilité politique, il faut juste rappeler qu'il y a largement contribué, puisque c'est quand même le MEDEF qui a fait capoter le conclave sur les retraites, alors qu'un accord avec la CFDT n'était pas si loin que ça, et que ça a largement contribué à affaiblir et à pousser vers la sortie François Bayrou. Donc quand on va entendre dans les jours qui viennent un certain nombre de voix s'affoler de l'instabilité, il faut se souvenir que tout le monde y a largement participé, notamment les milieux patronaux.
Merci beaucoup les informés avec Renaud Dely. Merci Alix Bouillaguet, éditorialiste politique à France Info TV. L'interview politique tous les matins à 7h45. Merci Étienne Girard, directeur adjoint de la rédaction de l'Express. À la une de l'Express cette semaine.
Le quart d'heure churchillien de François Bayrou, notre entretien avec le Premier ministre, courez l'acheter encore dans les kiosques jusqu'à jeudi.
Les bons kiosques.
Il vous reste encore quelques heures autres. Seulement ceux dans les meilleurs les kiosques. Bons. Renaud Dely, on se retrouve demain. Merci beaucoup et vous retrouvez les informés aussi ce soir à 20h.